Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Ras-le-bol des démarcheurs téléphoniques en tout genre. Petit rappel, après avoir recensé pas moins de 211 000 plaintes pour démarchage non sollicité en 2021, un décret daté du 1er mars 2023 instaure des restrictions horaires strictes pour le démarchage téléphonique. Désormais, les entreprises ne sont autorisées à solliciter par téléphone qu'après 10h du matin, entre 13h et 14h et avant 20h. Par ailleurs, le démarchage le week-end est tout simplement proscrit. Ce décret prévoit également une limitation du nombre de tentatives d'appel sur un même numéro, fixé à un maximum de 4 fois au cours d'une période de 30 jours pour une même entreprise. Afin d'éviter la détection et le rejet des appels, les entreprises de démarchage ont opté pour l'utilisation de numéros dits géographiques. Ces numéros comprennent les premiers chiffres de l'indicatif de la zone géographique de résidence, tels que 0162 et 0163 par exemple. Vous trouverez facilement la liste de tous les numéros à éviter en France métropolitaine sur le net. En outre, les démarcheurs peuvent également utiliser les numéros 09 48 et 09 49. Une avancée donc significative réside dans le fait que si vous prenez l'appel et indiquez votre refus de recevoir d'autres appels, l'entreprise n'est plus autorisée à vous rappeler pendant une période de 60 jours. Par ailleurs, pour une protection plus globale de votre numéro de téléphone contre le démarchage, l'inscription sur une liste d'opposition est fortement recommandée. Vous pouvez effectuer cette démarche sur le site officiel du gouvernement dédié à cet effet, boucletel.gouv.fr. Bloctel est donc un service public pour tous ceux qui souhaitent se protéger du démarchage téléphonique abusif. C'est une solution gratuite, facilement accessible, qui permet d'inscrire jusqu'à 10 numéros de téléphone personnel, garantissant ainsi une tranquillité face aux appels indésirables. Restez vigilants.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Une séance publique cette matinée du 16 février pour le département du Rhône. C'est dans la salle des colonnes sur le canton de Anse que se tenait le conseil décentralisé. À l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire. DOB, un bouleversement majeur et inédit du contexte financier dû aux multiples réformes fiscales des dernières années, nous confiait Christophe Guillotot, président du département du Rhône.
Il y a le débat d'orientation qui est un aspect, je dirais, régalien. On doit, avant le vote du budget qui se fera lui en mars, présenter à l'Assemblée ce que sont nos orientations, ce que sont nos visions. Donc ça permet de regarder dans le rétroviseur ce qu'a été l'année écoulée, ce que sont nos perspectives, et puis faire, je dirais, l'addition et la soustraction. C'est comme ça que ça se passe en termes de comptabilité, parce qu'en fait c'est une comptabilité. On s'aperçoit de deux choses. Hein. C'est que nos dépenses à nous vont se maintenir, on va investir, continuer à investir. On touche pas au social, bien sûr, qui est un impact lourd financièrement. Hein. C'est une de nos prérogatives principales. Et puis sur les routes, sur nos investissements de territoire, on va peut-être différer certaines choses, notamment le musée, certaines autres, mais on va faire. Nos dotations, je dirais, ce qui nous provient en termes de rentrée de l'extérieur, notamment les DMTO, c'est l'impôt notaire, sont en baisse quand même de 33 millions. Les ressources TVA sont en baisse, donc vous voyez, il faut faire très attention. Donc on va chercher l'économie partout, sur les emplois, sur les voitures, sur les assurances, sur le fonctionnement de la maison, sur tout ce qu'on peut économiser. Un sou, c'est un sou. Et donc on y va, voilà. On fait très attention avec une gestion plus fine de ce que sont les dépenses publiques. L'argent public, ça n'existe pas. Hein. C'est de l'argent qu'on va chercher dans la poche du contribuable. Donc comme il en rentre moins en termes de dotation et comme on ne veut surtout pas augmenter les impôts, on fait très attention aux dépenses.
Accompagner et faciliter la mobilité des bénéficiaires du RSA est l'une des nombreuses activités à laquelle s'engage le département afin de faciliter l'insertion professionnelle. Chef de file de la solidarité, le département pallie à une situation de l'aide sociale qui tente à se dégrader. Les solidarités sont une politique volontariste pour le département.
Alors ça, c'est ce qu'on veut surtout pas toucher à la solidarité. C'est l'ADN d'un département, de notre département. Comme je dis souvent, avant le carnet de naissance, en passant par le handicap, en passant par nos anciens, en passant par nos mineurs isolés, en passant par les jeunes majeurs qu'on récupère après, c'est des montants colossaux, mais bon, c'est notre prérogative, c'est une dépense régalienne et ça, on n'y touchera pas.
L'aménagement et le soutien à des projets ambitieux, être acteur du territoire pour le Nouveau Rhône.
Aucun investissement n'est supprimé. On va modifier, on va rallonger, notamment le musée de Saint-Ranguel, où on avait un investissement en deux phases sur deux mandats. On va allonger la première phase. Sur les routes, on va aussi peut-être différer certains projets. Ce qui est engagé, comme Belleville, 13 millions pour le cantonnement. Puis on a surtout la partie collège, qui est quelque chose d'important. Plan collège 2025, où on lance deux collèges neufs en construction. Celui de Jonas et celui qui sera à Lima. Et puis la restructuration Chazet, qui est en train de se terminer, était 12 millions quand même. Et puis ceux qui viendront, avec aussi parfois le concours de l'État. Il faut aussi dire quand l'État est à nos côtés, hein, sur le plan vert, on récupère aussi des fonds de l'État. Et ça, c'est bien de le dire. Voilà, donc, on ne fait pas tout seul avec l'argent public.
Le pont de Condrieu également.
Ah, le pont de Condrieu, c'est un pont qui on a une chance extraordinaire, c'est un pont qui traverse dans un autre département. Donc ça, c'est la règle, c'est une dépense partagée. Ce qui n'est pas le cas partout dans certains endroits, donc c'est une dépense partagée. On est dans les études, lourd, c'est un pont qui s'effondre et qui, en plus, les haubans sont amiantés, donc il y a tout pour plaire. Et dessous, il y a une canalisation de propylène. Donc c'est un pont qui va être, je dirais, enlevé à la circulation pour des raisons de sécurité. Et puis, malheureusement, pendant un an et demi, il sera, je dirais, démonté. Donc on est aussi dans une revisitation de ce pont avec, bien évidemment, un élargissement et une voie verte dessus. C'est assez légitime aujourd'hui dans la demande. Donc on regarde, on est en train d'étudier tout ça pour que les choses se passent. Donc d'ici un an et demi, le pont sera supprimé pour une période. On va commencer à mettre en place les barges. Je vais aller sur place dans quelques temps pour voir les barges qu'on va mettre en place, pour commencer les sondages, pour mettre ce qu'on appelle les pales planches. Voilà, c'est un chantier colossal.
Le fonds vert pour l'accélération de la transition écologique. Le fonds vert va aider les collectivités territoriales à renforcer leurs performances environnementales.
Ça, c'est l'État qui nous répartit. On va commencer par les affecter sur les collèges où, qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. On commence avec l'Arbrel. Et après, moi, je voudrais que le dossier suivant, c'est Ans, où on a plusieurs problèmes, une cantine qui est trop petite. On a des modulaires qu'on met en place, qui seront soulagés. Du reste, c'est ce nombre important lorsque le nouveau collège de Lima sera fait. Mais en attendant, on a le collège du Basnon à Condrieu, qui est une passoire thermique, mais énorme, qu'on veut mettre en place. Et puis l'agrandissement du collège de Brinda, qui est devenu nécessaire, parce que celui de Chaponneau est plein. On a sur l'ouest lyonnais un nombre important de nouveaux collégiens qu'il va falloir placer entre Saint-Martin-Roux, Brinda, Chaponneau, et peut-être voir même certains sur Soussure-Jarret.
Le soutien du département à de nombreuses communes dans des projets de rénovation ou de construction à travers le partenariat territorial.
On avait fait un rajout de l'année passée de 500 000 euros qu'on avait pu faire grâce à la vente de nos parts de LPA, le parc auto. On avait vendu nos parts, ce qui n'était plus nécessaire pour le département. On avait mis cette somme sur le... Ben, on l'a plus, donc on restera sur l'étiage de 10 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Peut-être par contre, là, avec un petit changement de règlement, on a trop de communes qui n'ont pas, j'y ai la vision, je dirais, que de l'application de notre règlement dans les travaux de 2 ans, même si certains ont été contraints par la crise du Covid, on a accepté, j'y ai, de toutes les dérogations, mais peut-être qu'on reverra notre financement, pas sur la somme, mais sur le paiement, peut-être au fur et à mesure des travaux, qui nous permettra, pour ceux qui ne les font pas. On a aujourd'hui 2 millions d'argent donnés qui n'ont pas été consommés. Bien sûr, on va les récupérer, ça c'est sûr. Mais ça aurait pu permettre à d'autres d'avoir des programmes mieux subventionnés.
Dans l'essentiel des dossiers votés en séance publique du 16 février dernier, la mobilité avec la Transalpine, la liaison européenne Lyon-Turin, le département accompagne le projet à hauteur de 1,5 million d'euros au bénéfice du bouclage du financement des études de la section française de la liaison Lyon-Turin, effectif fin janvier 2024. Ou encore, le département souhaite développer sa politique en faveur des jeunes pour une éducation nutritionnelle privilégiant le recours à des produits de saison et locaux en engageant l'expérimentation d'une opération « Un fruit à la récré » auprès des collèges, entre autres. Et tout de suite, notre page sportive avec Eddy Bernard. Alors Eddy, le bilan du week-end a apparemment été assez mitigé pour les sportifs de notre territoire, non ?
On peut le dire en effet, mais ça a quand même bien commencé vendredi parce qu'on a retrouvé notre football club Villefranche-Beaujolais conquérant, dynamique, engagé et très inspiré au stade Armand Chouffet. C'était vendredi donc 16 février et cela a permis face au DFCO à nos Tigres de s'illustrer en infligeant une véritable correction aux visiteurs cette fois. Alors dès la 13e minute de jeu, bien servi par le maître à jouer Lousif, bien c'est Maxime Blanc qui ouvre la marque. Et puis Sidi B double la mise à la 24e. Messoussa rajoute un 3e but avant de rentrer au vestiaire. Dijon a vraiment subi de bout en bout, puisque le 4e but de ce même Lousif, eh bien, il est intervenu en fin de match. Les Tigres caladois l'emportent 4-0, si vous avez bien compté Sylvie. Et cela leur permet de rester dans la course au podium. Mitigé, hélas, en championnat de France National 1, parce que de son côté, le Gol FC, lui, a coulé à Martigues en déplacement, toujours vendredi soir. Martigues, 3e du classement. Alors, ils ont encaissé rapidement un but dès la 13e minute. Et puis, ils ont eu beaucoup de mal à résister aux assauts des Martégaux pour finalement craquer en toute fin de match 3-0. Il reste 15e, le Gol FC. On est un peu inquiet. Ils sont à 5 points du premier non relégable, mais ils ont 2 matchs en retard. Alors, espérons que la suite de la phase retour leur portera bonheur. Ce que l'on n'arrête plus, ce sont les rugbymen du CS Villefranche Rugby qui enchaînent un 2e exploit consécutif. C'était dimanche 18 février au complexe de l'Escale d'Arnas et cette fois devant le 2e du classement du championnat de fédéral 1, le Servette Genève. Alors ils marquent 3 essais en première période, ça se passe bien, ils profitent de leur supériorité numérique. Enfin, ils ont eu un petit peu plus de mal par la suite et ils ont même failli, hélas, passer à la trappe sur une pénalité manquée des visiteurs, des Suisses donc. Mais c'est finalement Ferro qui passe, lui, à quelques minutes de la fin du match, la pénalité de la victoire, 28-27. Et donc, bien désormais, le CSV ne pense plus forcément au maintien en Fédéral 1, mais pense même à l'une des 6 places qualificatives pour la phase finale. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et puis, de son côté, en Fédéral 3, l'ERC Belleville s'est imposé mais de justesse à domicile devant Montceau-les-Mines, 36-34. Il reprend tout seul la 2e place du classement au championnat.
Et dans les salles, donc, comment se sont comportées nos équipes ?
Alors, du côté de nos joueurs de handball caladois de l'Entente Beaujolaise, ça s'est assez bien passé en déplacement. Ils ont assuré à Semur en Aussois, dernier du championnat national 2. C'était samedi 17 février. Il faudra quand même attendre quasiment le milieu de la 2e mi-temps pour que les caladois prennent véritablement l'ascendant sur les locaux. Alors, ils s'imposent finalement tout de même largement, 32-26, et ils occupent désormais une très belle 5e place au championnat. Toujours en National 2, les féminines, les violettes de Saint-Julien, de Nice-Églaisé, ont été complètement dépassées à domicile à Saint-Roch samedi soir par les Iséroises de Échirolles-Ébens. Battues dans les grandes largeurs, elles ont été complètement à côté du sujet. 25-38, le score final. Mais bon, elles restent 7e du classement, il n'y a pas péril, après la 7e journée. Ceux qui ont fait une excellente opération, ils ont même fait coup double, ce sont nos joueurs de basket, de Beaujolais Basket, puisque samedi 17 février, ils se rendaient en Corse pour un nouveau tour du Trophée Coupe de France, le 8e de finale. Et ils ne sont pas tombés dans le panneau parce qu'ils affrontaient une équipe locale de Bastia, l'étoile filante, disposait de 14 points d'avance au début, au coup d'envoi de la rencontre, parce qu'ils évoluent en pré-national, soit 2 niveaux en dessous. Simplement, les joueurs beaujolais ont pris les choses par le bon bout, 4 petites minutes pour remonter le handicap, et ensuite ils ont déroulé, victoire 103-55, et un bonheur ne venant jamais seul, d'accéder au quart de finale leur permet d'obtenir un point de bonus en championnat, au championnat national 2, et cela leur permet d'être seul en tête de la poule A à ce stade de la saison. Donc bravo à Beaujolais Basket. Ça c'est hélas, tu vois, c'est très très mitigé tout ça, hein, très très mal passé du côté du volleyball, puisque nos deux équipes caladoises ont été battues en 3 manches, balayées, alors pour les masculins en national 2 à Marseille, en 3 petites manches donc, et puis pour les féminines en national 3, chez le leader Vincennes, ça c'était un petit peu plus attendu. Les garçons, c'était samedi soir et les filles, c'était dimanche 18 février. Les masculins restent en milieu de tableau, 6e, et les féminines descendent à la 8e place. J'ai un dernier résultat à vous donner. Ça concerne les loups du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui ont fait leur rentrée sur route le week-end dernier. Et c'est très réussi pour la première apparition à nouveau en élite pour les loups, donc, puisque Théo Thomas termine à la 2e place d'un cheveu sur la ligne d'arrivée au Grand Prix d'Aix-en-Provence. Ça, c'était samedi 17 février. Et le lendemain, dimanche 18, eh bien, propulsé par les autres coéquipiers du VCVB, il fait une très belle 4e place au Grand Prix du Piloubier Sainte-Victoire, donc au sommet de cette belle montagne. La meute semble bien partie cette année.
Alors, quel est le menu du dernier week-end de février ?
Il est un petit peu léger, mais on aura évidemment 2 rendez-vous en championnat de France de National 1 de football. Pour nos Tigres caladois qui enchaînent avec un déplacement à Nîmes, vendredi 23 à 19h30 bien entendu. Les Crocodiles sont 9e du classement, juste derrière le FCVB, mais qui, rappelons-le, a 3 matchs à rejouer. Hein. Et d'ailleurs, on en parlera effectivement tout au long du mois de mars, parce qu'ils vont jouer 2 fois par semaine les 3 semaines suivantes. Et puis le Gol FC de son côté, attention, là il va falloir réussir le match à la maison, le 23, donc toujours 19h30, contre Rouen, qui est 10e du classement. Là, il faut prendre des points, parce que sinon, la relégation, elle va commencer à devenir un petit peu problématique. Je vous donne un rendez-vous de handball. Il est pour les masculins de l'Entente Beaujolaise. C'est à l'Escale d'Arnas, samedi 24 février, 20h30. Ragaillardi, nos Caladois, là, qui affrontent le leader, Annecy. Gros, gros challenge. Donc, allez encourager nos joueurs de handball. Gros challenge également pour les basketteurs de Beaujolais Basket, qui retournent en Méditerranée. Mais cette fois, ils ne traverseront pas, hein, évidemment, pour aller dans l'île de Beauté. Ils vont rester sur la Côte d'Azur pour aller défier le Canet, qui est juste derrière, hein, qui les talonne au classement. Et surtout, le Canet est invaincu en 2024. Donc, c'est un gros challenge. Les joueurs de Tarare en National 3, eux, se rendent à Saint-Affre-Riedisheim. Oh, c'est compliqué, hein, les Alsaciens. C'est samedi 24 à 20h également. Et enfin, un rendez-vous de volley pour les joueuses, les féminines, hein, du VBVB, qui se rendent en banlieue dijonnaise à Talent. Donc, c'est le 25 février à 15h en championnat national 3. Elles avaient été largement battues en 3 manches. Au match aller, elles feront sans doute de leur mieux. Voilà, une bonne semaine de sport.
Oui, merci Adi.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade. Ma radio.